Uchita.
Uchita. Uchita.
Attitude.
Attitude.
Uchitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac. Cette émission est aussi supportée par l'association Olaïc. Vous voyez, je l'ai dit en début d'émission, je n'allais point oublier, monsieur Bruno Cétillon. Vous voyez, il faut bien me surveiller pour que je ne fasse pas d'erreur, y compris en début d'émission. Alors, cette émission aujourd'hui, c'est une émission qui sera liée au conte, qui sera liée à Clélia Toivou. Je me suis planté. On recommence. Qui sera liée à Clélia Taboileau. Voilà. Et donc, cette conteuse nous vient de Montpellier, mais elle a des origines alésiennes.
C'est ça.
Alors, dites-nous tout sur Alès, parce que c'est quelque chose qui nous importe, Alès. C'est la Cévenne.
Alors, je suis née à Alès, mes parents aussi, mais mes grands-parents du côté maternel étaient italiens. Et c'est une longue histoire, mais en gros, mon grand-père est venu pour, à la base, travailler dans les mines à Alès. Et il a fait venir sa femme d'Italie, de Urbino, de là où ils venaient tous les deux. Et puis, voilà, ils se sont installés là, ils ont eu ma mère, ils ont eu ma tante. Et puis,
alors, c'est dans les marches ?
Urbino, oui, c'est dans les marches, c'est ça.
Alors, situez-nous Urbino par rapport à nos auditeurs, parce que si on dit c'est dans les marches, ils vont penser qu'on fait de la randonnée pédestre, mais ça ne suffira pas.
C'est vrai que c'est pas à côté, mais c'est pas si loin non plus. En fait, c'est à 300 km au nord-est de Rome, sur la côte adriatique, face à la Croatie, en dessous de Venise, derrière Florence, enfin Florence un peu plus haut. C'est une très belle ville, Urbino. Voilà, toute
vous
ma famille.
Vous avez des attaches là-bas ?
Oui, j'ai encore une grand-tante, des cousins. Tout le côté maternel vit là-bas, en fait.
Et vous parlez italien ?
Si.
Oui.
Cécile.
Molto bene.
Ma lo parlo, non benissimo, ma lo parlo.
Et vous parlez l'occitan, du coup ?
Pas du tout. Non, je suis désolée.
C'est le piège, ça, c'est le piège. Bon, mais vous allez l'apprendre.
Je sais pas, je l'ai chanté. L'occitan, je connais quelques chants occitans, j'avoue que c'est une belle langue pour chanter. Mais comme moi, dans ma famille, enfin, en tout cas du côté maternel, on ne parlait que italien ou français, donc j'ai pas eu l'occasion de l'entendre. Par contre, côté paternel, ma grand-mère avait quelques expressions, je me souviens, il est né, si, fai caga, des choses comme ça, ça pègue.
Fai caga, la bigne au portant, fai caga, la bigne au portant, mais la clau.
Peut-être.
Peut-être. Vous n'en êtes pas sûr. Bon, voilà, écoutez, donc, vous aurez compris que nous allons être dans une émission de contes, puisque, Clélia va nous emmener dans son imaginaire, puisqu'en fait, avec l'imaginaire et le conte, nous ne nous perdons pas de vue.
Tout à fait. Alors, peut-être que je vais quand même commencer par parler de la réalité, c'est-à-dire mon parcours, comment j'en suis arrivée là.
Si vous voulez, mais bon, vous savez, moi, je prends les choses par la démesure, mais quand même, oui, votre parcours, alors.
Mais c'est vrai, pour rebondir avec ce que vous avez dit, l'imaginaire a toujours été au centre de ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé jouer, imaginer des choses, on imagine que je suis ici, ça, qu'on est là, tout ça. Donc j'étais très portée sur l'imaginaire, l'imagination, et aussi, ma mère m'a beaucoup aidée à développer ce volet-là, parce que quand on était petits, mon frère et moi, au réveil, elle nous demandait si on se souvenait de nos rêves, elle les écrivait, on faisait des dessins avec les rêves qu'on avait faits. Et donc, c'était une manière de nourrir ce côté-là de l'imagination. Et puis, petit à petit, quand j'étais en terminale au lycée Jean-Baptiste Dumas d'Alès, le fameux grand lycée, j'ai une prof passionnante en lettres qui nous a fait travailler sur Tristan et Iseut. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Je veux raconter, je veux porter des récits.
Alors, racontez-nous, pour nos auditeurs, l'histoire rapide de Tristan et Iseut.
Oh,
parce que, faites court, mais inventez-moi votre imaginaire dans Tristan et Iseut. Mais c'est vrai que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas.
Okay.
Bien qu'on connaît le titre, hein, Tristan et Iseut, mais
bon, alors,
est-ce suffisant ?
Ça remonte à il y a très longtemps, je m'excuse pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, mais de ce que je me souviens, c'est l'histoire du roi Mar qui, un jour, trouve du haut de son palais à la fenêtre un cheveu blond, si beau, si soyeux, qui se dit « J'épouserai la fille qui porte ses cheveux ». Et il envoie son neveu Tristan trouver cette fille qui se trouve être la fille du roi d'Irlande. Et donc il envoie Tristan chercher Iseult avec tout un équipage, et notamment celle qui deviendra sa nourrice, et qui est aussi une espèce de herboriste magicienne, qui doit offrir une potion d'amour à Iseult pour qu'elle tombe nette amoureuse du roi Mar. Mais sauf que pendant le voyage retour, Tristan et Iseult boivent cette fameuse potion et ils sont liés à tout jamais d'un amour réciproque et profond qui fait qu'ils affronteront toutes les épreuves, même celle de devenir des mendiants dans la forêt. Voilà.
C'est une belle histoire pour commencer.
C'est une belle histoire, oui.
C'est une très belle histoire. Donc, on commence très fort, mais on va aussi commencer très fort en chanson avec le premier choix de Clélia, parce que nous ne l'avons pas dit peut-être, mais notre hôte s'appelle Clélia. C'est italien, ça ?
Si, c'est un prénom italien.
Voilà, et bien Clélia, l'Italie, et ta voix l'eau pour le reste.
C'est ça, c'est le côté français.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كي ما حكى ولك مجد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Nous sommes dans les contes de Clélia et nous sommes restés dans les contes malgré que nous sommes passés à la phase musicale avec Swann Massy qui interprète un conte arabe.
En fait, elle s'adresse à un conteur et elle lui dit « Raconte, vas-y, raconte-nous, Ken Yamaken, il était une fois, parle-nous de Lounja, la fille de l'ogresse, raconte-nous, vas-y, déroule le tapis. » J'ai tout de suite aimé cette chanson sans savoir ce que ça disait, mais elle m'a fascinée, ça remonte à il y a très longtemps, mais quand elle est sortie, j'ai trouvé ça formidable, et puis il y a quelques années, j'ai regardé les paroles, et là j'étais sidérée de voir qu'en fait elle parlait de mon métier.
Et vous avez le ton du métier dans votre voix?
Peut-être.
Mais c'est bien.
Bah ouais, il faut quand même, la voix, c'est notre instrument.
Alors on va repartir sur vos bases, parce que vos bases le sont... Bon, c'est Venole, française, occitane, italienne, mais elles ont aussi nom Monsieur Oubaré, qui alors, est un formateur.
Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, donc, je suis alésienne, j'ai grandi là-bas, et à 18 ans, le bac en poche, ma seule envie, c'était de quitter Alès. Et j'ai fait des études de lettres. Mais j'avais toujours cette envie de devenir conteuse. Je savais pas comment on faisait. Et puis, bon, au fil des ans, on m'a orientée. On m'a dit, tu sais, il y a un lieu formidable où tu peux vraiment te former, devenir conteuse. Ça s'appelle le CMLO, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale. Et je dis, mais c'est super ça, ça se trouve où? Et on m'a dit, à Alès. Donc, je suis revenue aux sources.
Retour à la case départ.
Et Marc Aubaré m'a permis de vraiment voir différemment cette ville et son histoire et le patrimoine Cévenole. Et puis surtout, il m'a appris plus le côté, ce que c'est que cette matière, que la littérature orale, d'où ça vient, selon les cultures, les différentes histoires, les mythologies, les légendes, le légendaire. Enfin voilà, c'était... une base théorique importante, je pense. Et puis après, je suis allée ailleurs pour travailler plus le côté corporel, la mise en voix, en corps des histoires.
La mise en voix ne vous a pas suffi. Vous avez travaillé ensuite avec votre corps.
Oui, parce que si je n'avais fait que des contes audio ou de la radio, ça m'aurait suffi certainement, la voix. Mais il se trouve que je fais du spectacle, donc je suis sur scène face à un public. Et moi, j'ai toujours été très physique, c'est-à-dire jeune, j'étais très sportive. Je faisais du demi-fond, je faisais de la gym, je faisais du vélo, voilà. J'ai toujours utilisé mon corps et donc je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à l'utiliser aussi sur scène. Et pour ça, je suis allée plus du côté du théâtre masqué notamment, de la Commedia dell'arte.
Vous avez rencontré le grand formateur de la Commedia dell'arte.
Carlo Bozzo aussi, oui, qui a monté une école de commedia à Versailles, l'Accademia Internazionale della Commedia dell'arte di Versailles.
C'est vrai que quand on le dit en italien, ça impressionne.
Ça le fait plus, hein, c'est ça.
Ça impressionne. Voilà, mais il faut impressionner les gens.
Et du coup, je me suis formée au côté masqué, mais pas forcément pour devenir comédienne de Commedia dell'arte, mais plus pour, avec cet outil qui est le masque, à utiliser son corps, apprendre vraiment à se grimer, à faire des personnages, à rentrer dans la peau d'un autre ou d'une autre, et à être une autre personne. Et puis, de retour dans mon rôle de conteuse, si je puis dire, j'ai appris à m'en servir pour les histoires. C'est-à-dire que j'ai une dimension plus théâtrale des histoires. Je raconte, mais il y a des moments où je vais incarner les personnages, je vais faire entendre leur voix, je vais laisser donner à voir leur démarche.
Vous les incarnez, en fait.
C'est ça, je les incarne. Mais je ne vais pas aussi profond qu'un acteur, parce que ce n'est pas une pièce de théâtre. Je suis vraiment sur un fil entre narration et incarnation.
Est-ce que vous partez sur une trame? Est-ce que vous partez sur un texte?
Alors, il y a plusieurs choses, selon les contextes. Si ce sont des spectacles, vraiment des spectacles, avec une mise en scène, avec un accompagnement musical, là, il y a un texte. Et ça me sert de partition. Si par contre, comme je le fais à l'hôpital, parce qu'on y reviendra certainement, mais j'interviens au CHU de Montpellier de chambre en chambre, je vais raconter au chevet d'enfants et de leurs parents. Là, je laisse libre cours à l'improvisation, c'est-à-dire que j'ai des trames et je peux vraiment me permettre d'improviser, de rallonger, de raccourcir, de rajouter quelques événements ou même carrément d'inventer une histoire. Vu que j'ai une connaissance quand même assez étendue de ce que c'est un conte, de ce que c'est que sa structure, des ficelles en fait, je peux me permettre d'improviser comme un jazzman ferait avec la musique.
Alors, question subsidiaire, on va dire, que font les pays baltes dans cette histoire?
Alors, en fait, je reviens en arrière, donc j'ai fait des études littéraires, et puis j'ai toujours été passionnée par la rencontre des cultures. Et j'ai découvert à la fac de lettres la formation français langue étrangère, c'est-à-dire enseigner le français comme une langue étrangère. Et du coup, travailler avec des étrangers qui viennent d'un peu partout. Et dans le cadre de cette formation, de mon master, le ministère des Affaires étrangères proposait aux titulaires de ce master de partir un an à l'étranger. Et moi, au départ, j'ai pas voulu parce que j'avais un amoureux, parce que je voulais pas partir loin. Et puis, au mois de septembre, j'ai vu que tous les copains étaient partis et que moi, j'étais là à Montpellier. Je me suis dit, quand même, c'est trop dommage. Alors, j'ai quand même retenté ma chance. Et là, ils m'ont dit, si vous voulez, il reste qu'une chose, c'est la Lettonie. Et à ce moment-là, je n'avais jamais entendu parler de ce pays. On m'a dit, vous allez partir à Riga. Donc, j'ai regardé sur une carte, j'ai vu les pays baltes, pas très loin de la Russie, pas très loin des pays nordiques. J'ai dit, allez, on y va. Et je suis partie là-bas pendant 9 mois. Je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, pour le Centre culturel français de Riga. J'ai donné à 22 ans des cours à des professeurs de fac, à des fonctionnaires européens, à des travailleurs. Enfin, c'était vraiment très formateur. Je me suis jetée dans le bain. Heureusement, j'étais jeune, quoi. Je me posais pas trop de questions. Voilà, ça roulait, quoi.
Il y avait une forme d'inconscience.
C'est peut-être ça, ouais.
Et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, j'ai beaucoup aimé faire ça. Puis surtout, on me donnait des possibilités de faire des projets. Donc moi, j'ai lancé justement des projets autour du conte, des projets autour de l'oral. Et c'est de là qu'il m'est venu l'envie de poursuivre la découverte du conte, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout ce que c'était, quoi. J'avais cette envie, mais je ne l'avais pas développée.
Vous étiez dans un tâtonnement qui fait que l'expérience de Riga a été favorable au développement du conte chez vous?
Oui, un peu après quand même, parce que je suis revenue en France, j'ai terminé par un master à Lille, j'ai travaillé dans l'interculturel, et puis je suis revenue à Montpellier, et là je me suis mise à travailler quelques temps dans les centres linguistiques. En même temps, je proposais d'aborder le conte dans l'interculturalité. J'ai travaillé pour l'éducation populaire aussi à la boutique d'écriture, où j'ai mis en place des projets autour du conte, etc. Et puis, à 27 ans, je me suis dit, là, Clélia, il est temps vraiment de faire ce que tu veux dans la vie. Ça, c'était vraiment quelque chose de fondamental pour moi, de faire un métier qui me passionne. Je ne me voyais pas du tout dans un métier qui ne me plaisait pas. Donc, je me suis dit, c'est le temps. Il est venu le temps de faire ce que tu veux. Donc, j'ai arrêté de travailler, je me suis mise au chômage. Et pendant ce temps, je suis allée me former au CMLO, justement, auprès de Marco Barré, mais aussi au Clio, auprès de Bruno de la Salle, et puis auprès d'autres conteurs aussi géniaux les uns que les autres. Je pense à Pascal Quéré, par exemple.
Vous avez une belle carte de visite.
Oui. Oui, après, dans le milieu, je ne sais pas si ça compte vraiment, la carte de visite.
Oui, mais quand même, vous parlez de Pascal Quéré, de Bruno de la Salle, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Plus Aubary, ça fait quand même une trilogie sympathique.
Après, c'est quand même assez classique parmi les conteurs de ma génération d'avoir eu un enseignement de, comment dire, entre guillemets, de maître, quoi. Maître conteur. Et suite à ça, je me suis lancée, donc j'ai créé avec d'autres la compagnie L'Oiseau Lire, en me disant que je voudrais développer mes projets artistiques par le biais de cette compagnie.
Pourquoi vous l'avez appelé L'Oiseau Lire?
Ah, c'est une
belle... L'Oiseau Lire, L-I-R-E, ou L'Oiseau Lire, L-Y-R-E?
Non, c'est la lyre comme celle d'Apollon. Mais là aussi, il y avait une part d'inconscience, parce que c'est bien plus tard que je me suis mise à travailler et à me passionner pour la mythologie grecque. Mais non, ça c'est un l'oiseau lyre, c'est un nom que m'a suggéré un ami et je lui en suis reconnaissante. Voilà, j'aime bien.
C'est un joli nom.
C'est un joli nom, ouais. À la fois poétique.
Et donc, vous avez démarré sur un projet de mythologie.
Démarrer le spectacle, ouais. D'abord, j'ai un petit peu fait d'action culturelle, c'est-à-dire pour me former, je faisais des ateliers autour du conte, dans les milieux scolaires, dans les milieux de l'éducation populaire. Et puis après, j'ai fait un premier spectacle dans le Jardin des Dieux, autour des métamorphoses végétales d'Ovide, avec un accompagnement musical assuré par Claire Mingui. Donc c'est un projet voilà, qui a démarré en 2016.
Claire Mingui au violoncelle ?
Oui, tout à fait. Et on l'a beaucoup tourné en déambulation. On a été invité voilà, soit dans des jardins, dans des parcs, dans des musées, dans des lieux patrimoniaux, dans des établissements scolaires, enfin des écoles, des collèges. Voilà.
Vous étiez que toutes les deux ou il y avait d'autres musiciens ?
Non, que toutes les deux.
Ouais.
Ouais, ouais. Voix, violoncelle, c'est un duo que j'aime bien. Moi, j'ai une voix quand même assez haute, enfin un peu aiguë, quoi. Le violoncelle est beaucoup plus bas, donc je trouve que ça se marie bien.
Faisait une balance.
Ouais, c'est ça. Alors que le violon est plus proche de ma voix, donc c'est plus compliqué.
D'accord. Donc ça explique le
timbre, ouais, le timbre choisi.
Voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant et ça nous laisse le temps d'aller faire un tour du côté de chez Georges.
Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde sonore, hors de sonore, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
J'ai rendez-vous avec vous, Georges Brassens. On est dans le choix des mots, là.
Ah oui, Georges et moi, c'est une longue histoire.
Vous êtes amoureuse de Georges Brassens, un peu ?
Bah, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les chansons à texte. Pour moi, le texte est fondamental. Et Georges Brassens, c'est un poète.
Vous l'appelez Georges ?
Oui, pardon.
Non, non, mais c'est bien. Ça montre qu'il y a une intimité.
Oui, 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 j'ai beaucoup écouté, lu ces chansons, qui sont comme des poèmes, en fait, ouais. Et ça me tenait à cœur ouais, de le mettre dans ma liste d'aujourd'hui.
Ben, c'est bien, c'est bien. On aime bien Georges Brassens, les filles. On aime bien. Alors, bon, dites-moi tout. Vous avez parlé à un moment donné de Familistère. On va faire un petit retour en arrière, là, non ?
Ok. Oui, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, parce que au sein de la compagnie L'Oiseau Lyre, donc, on propose des spectacles de théâtre-récit, de contes, et puis on nous appelle aussi, on nous sollicite pour faire des projets in situ. C'est-à-dire que c'est des lieux patrimoniaux qui nous sollicitent pour venir, selon les budgets, soit il n'y a que moi, soit je viens avec un comédien. Et là, pour le Familistère, on était quatre. Il y avait donc moi, conteuse à l'écriture aussi, Christophe Pujol à l'écriture et comédien. Et il y avait Pierre Bernon et Michael Bouden, deux musiciens de jazz hors pair. Et tous les quatre, on est montés là-haut pour répondre à une demande du Familistère de Guise en Picardie, qui, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'œuvre d'un grand homme, lui aussi, Jean-Baptiste André Gaudin, qui est celui qui a créé les Poêles Gaudin et qui a voulu, au 19e siècle, créer un lieu de vie pour ses ouvriers, un lieu de vie décent, pour l'époque, en y veillant à ce qu'ils aient toutes les conditions sanitaires possibles, c'est-à-dire l'eau potable, l'électricité, le chauffage, mais en plus un lieu d'éducation avec une école révolutionnaire pour l'époque, avec une piscine pour apprendre à nager, avec un théâtre à l'italienne pour éduquer le peuple. Donc il y avait vraiment une utopie socialiste derrière, et c'est la seule utopie au monde qui ait fonctionné. C'est le seul projet de ce type, on appelait ça des phalanstères, qui ait fonctionné. Et du coup, ça reste aujourd'hui un lieu historique fort. C'est devenu un lieu patrimonial. Et donc, le directeur de ce lieu et puis ses employés là, nous ont sollicité pour venir créer l'été dernier un projet in situ dans les jardins du Familistère, qui ont été aussi pensés par Gaudin. Et donc, on a créé ce projet. C'était vraiment un one shot, c'est-à-dire une fois. On y a passé presque 3 semaines là-bas et on a écrit une histoire. On l'a jouée, on a composé, tout ça.
Vous avez dit Guise.
Oui, on dit Guise, ouais.
Ça s'écrit Guise.
Ça s'écrit comme ça. Pour les gens du Sud, on dirait Guise. Moi, je suis arrivée là-haut, j'ai dit Guise. Et puis les Picards...
Mais
les
ça a quelque chose à voir avec le duc de Guise?
Je n'ai aucune idée, je suis désolée. Mais on m'a dit, il faut penser à aiguille. Bah, Guise, c'est pareil, on prononce de la même manière.
Et c'est où en France?
Alors, c'est en Picardie. C'est entre, on va dire, je sais pas, Reims. Je suis désolée, je suis pas très bonne en géographie. Voilà, c'est
bon,
là-haut.
On ira voir, sur la carte. Mais Guise, c'est un gros, quoi.
Oui,
c'est en dessous du Millau, quoi.
Ah oui, bien au-dessus, ouais. C'est tout en haut, en Picardie, Hauts-de-France, tout ça.
Bon, ben écoutez, c'est formidable. Donc, le Phalanstère, ça vous connaît, quoi, le Familistère, ça vous connaît?
Oui, c'est un beau lieu qui subit, comme tous les hauts lieux patrimoniaux, des coûts budgétaires. Ils sont, cette année, malheureusement, obligés d'abandonner leur programmation artistique pour l'année prochaine, par manque de budget. Mais oui, c'est un haut lieu qui me tient à cœur et j'ai été ravie de passer du temps là-bas.
Donc, le haut lieu, Familistère, Guise, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, là-dedans?
Précisément. Alors, c'était vraiment un projet... on s'est, en lisant, parce qu'il a fallu qu'on découvre l'œuvre de ce monsieur Gaudin, on s'est rendu compte que non seulement c'était un entrepreneur cartésien qui avait le côté pratique, un ingénieur qui avait inventé plein de choses, mais à côté de ça, c'était aussi un spirit, c'est-à-dire qu'il faisait tourner les tables.
Lala.
Et comme nous, notre commande, c'était de faire une déambulation artistique dans le jardin, comme il y avait déjà le bâtiment qui était le côté solide, palpable, concret, nous on s'est dit qu'on allait aller du côté du surnaturel. Donc on a imaginé une balade dans le jardin comme si c'était l'après-vie des gens qui avaient vécu au Familistère. Et donc nous, les comédiens qu'on était, on était en fait des revenants. Moi, j'incarnais Marie Moret, qui a été celle qui a accompagné Gaudin toute sa vie. C'était sa secrétaire, c'était sa nièce, sa secrétaire est devenue sa femme. J'étais la guide qui amenait dans l'autre monde le public. Et le long du parcours, il y avait Christophe Pujol qui incarnait plusieurs personnages, tous des revenants qui avaient vécu au Familistère et qui racontaient, qui envoyaient un nanti par exemple qui regrettait d'avoir dépensé trop d'argent, un ouvrier, le gardien du jardin à l'époque de son vivant, il racontait des anecdotes, tout ça. Et à la fin, bien sûr, on aboutissait à Jean-Baptiste Gaudin en personne qui nous racontait comment... Dans l'au-delà, il continuait son œuvre, il continuait à écrire son ouvrage de 5500 pages sur le socialisme dans l'au-delà.
L'utopie.
L'utopie, c'est ça.
l'utopie. C'est... Et vous avez dû vous éclater à
on
faire ça.
On s'est régalé, on s'est éclaté. C'était quand même un gros boulot.
On le sent dans votre façon de le présenter. On a envie d'y être.
Ouais, bah j'aimerais bien que ça se reproduise parce qu'on a fait tout ça, ça a eu lieu une fois et puis ça a été fini. On s'est dit, oh bah mince alors, on aurait aimé que ça continue.
Mais il y a toute une série de lieux intéressants sur lesquels vous pourriez vous approcher, vous accrocher.
Tout à fait. D'ailleurs, je lance un appel, hein, s'il y a des lieux patrimoniaux, historiques, et ça n'en manque pas, qui veulent qu'on vienne faire des projets in situ, à plusieurs, seuls, en duo, en solo, en musique, à cheval, s'il le faut, pas de problème, tout est imaginé.
Voilà, en fusée, s'il le faut. Voilà.
Sold out on you. Sad, but it's true. After all we've been through. Sold out on you. You put me through hell. Got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way. No matter how hard I pray, can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can, but I'm only a man. Ain't it a pity? Ain't it a crying shame? I'm in the heart of the city, and I still feel the pain.
Et c'est pourquoi qu'elle est posée là.
Alors, je ne pourrais pas traduire exactement « Sold out on you ». Je pense un rapport avec « Tu m'as possédé », quelque chose comme ça. En fait, j'aime bien ce gars parce que déjà, il a une voix formidable. Et en plus, c'est que quand il a eu 70 ans qu'il a pu devenir chanteur. Et il a fait une chanson sur ça d'ailleurs, en disant « L'âge ne compte pas en fait, quel que soit son âge, on peut réaliser ses rêves. » Et lui, il l'a fait, voilà, à 70 ans, et il a une carrière internationale devant lui. Et c'est le plus drôle, c'est que je l'ai découvert cette année. Et le jour où je l'ai découvert, il passait à Montpellier au Rockstore.
Voilà.
C'est formidable. Bon, j'ai pas pu aller le voir, malheureusement.
C'était écrit.
Ouais.
C'était écrit. Alors, on avait donc Robert Findlay. Et on va se retirer donc sur la pointe des pieds, grâce à cette magnifique chanson. On se retire du familistère sur la pointe des pieds.
Tout à fait.
Et nous allons aller à l'hôpital.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital ?
Alors en fait, à l'hôpital de Montpellier, au CHU de Montpellier, j'interviens 6 fois par mois en service pédiatrique, dans chaque service, comme une visiteuse éphémère. Je parcours les couloirs et je propose de chambre en chambre des histoires aux enfants et à leurs parents. Je propose ça à tous les enfants, c'est-à-dire à partir de 2 ans jusqu'à 18 ans, même il y en a qui sont encore un peu plus grands. Et c'est vraiment une autre manière d'aborder mon travail, parce que c'est pas du spectacle, c'est pas de la représentation. Là, c'est beaucoup plus de la relation, de l'adaptation, parce qu'on est dans un milieu médical et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ce que je fais. Mais moi, je me moule là-dedans, j'arrive. Et même s'il y a les portes s'ouvrent, l'infirmière qui arrive, qui regarde quelque chose, je m'adapte. Et c'est vraiment des petites capsules, des petites bulles d'air qui sont proposées aux enfants hospitalisés. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Depuis 10 ans, j'interviens à l'hôpital. Au départ, c'était le département qui m'avait sollicité pour intervenir l'été. Et puis après, c'est la DRAC qui a soutenu le projet, et il y a eu un temps où ça s'est arrêté. Et là, depuis 2 ans, à cause du Covid, j'ai pas pu intervenir, mais voilà, depuis 2 ans, c'est l'association Petit Prince qui finance, grâce à un mécène privé, mes interventions.
Donc, c'est un projet solide qui a son temps de vie dans le... Dans le temps.
Exactement, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup évolué quand j'ai commencé. Bon, j'étais jeune conteuse et j'avais le défaut d'aller vite. Or, de manière générale, j'allais trop vite. Et à l'hôpital, en plus, c'est vraiment un lieu où il ne faut pas aller vite. Il faut prendre son temps. On rentre dans une chambre, on s'est rentré dans l'intimité de l'enfant et de ses parents. Et... prendre le temps de parler, juste d'un mot, voilà, saisir un peu l'humeur, tisser un petit lien très fragile, mais qui est là et qui est important, le temps de la rencontre. Et ça, j'ai appris à le faire au fil des années.
Alors, Clélia, faisons une rencontre autour de votre compte. Je suis donc à l'hôpital,
ouais.
Et vous venez me faire une intervention comptée. Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? D'abord, je propose à l'enfant, enfin, en général, il y a l'éducatrice ou l'éducateur qui est passé avant le matin dans le...
Préparé.
Voilà, il est passé, il annonce, de chambre en chambre, il dit que je vais venir et que si ça intéresse l'enfant, qu'il le lui dise. Il y a des enfants qui disent, qui sont tout de suite preneurs et d'autres qui disent non, qui sont un peu timides ou qui ont carrément pas du tout envie. Et dans ces cas-là, où il y en a qu'on prévient pas même. Et dans ces cas-là, moi, je passe. Et s'il y a des enfants qui, au départ, avaient dit non, des fois, j'arrive par juste le fait qu'on se rend compte, que j'explique, que je dise, tu sais, on peut faire juste une histoire courte de 5 minutes, et puis si t'as envie, on continue. Si tu n'as pas envie, ça s'arrête là. Ou ça peut être juste quelques devinettes. C'est vraiment une découverte de ce que c'est que le conte. Parce que, bien souvent, les enfants et leurs parents... Enfin, bien souvent. Quelquefois, ils n'ont jamais rencontré de conteuse ou de conteur, donc ils découvrent cette matière.
Alors, on a bien compris le principe.
Ouais.
Passons au conte. Allez.
Ah, ok, vous voulez que je vous raconte une histoire ?
Oui, je veux que vous me racontiez une histoire, moi je suis qu'un enfant.
D'accord. Alors, on va partir en Irlande. Vous savez, là-bas, le soir, après une longue journée de travail, la coutume veut qu'on se retrouve au pub. Pour décompresser, pour discuter, pour retrouver les copains. Et dans mon histoire, c'était le seul lieu de sortie dans les environs. Il y avait un pub au bord d'un lac et tout autour la forêt. Et ce soir-là, c'était vendredi soir, tous les habitants des environs s'y étaient retrouvés. De bonne heure, il y avait d'abord eu les vieilles dames qui étaient là, qui discutaient entre elles, les joueurs d'échecs derrière, très sérieux, Et il y avait les musiciens qui étaient arrivés ensuite et qui allaient se chauffer pour préparer un bœuf d'enfer. Il y avait les piliers de comptoir qui, eux, ne quittaient jamais leur place. Entre eux, il y avait le serveur qui passait, commande, etc. Et la patronne derrière le zinc qui essuyait les verres et qui regardait d'un œil attentif si tout se passait bien. Et puis dans ce monde, il y avait un jeune homme. Lui, la patronne le connaissait bien, c'était un garçon du coin. Il était là, tout seul, il buvait sa bière, sans un mot, tête basse. Il s'appelait Brian. Alors elle s'approche et elle lui dit « Alors Brian, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? T'as pas une histoire à raconter ?» Et Brian, il devient rouge, il baisse la tête, il boit une gorgée de bière et pas un mot. Bon, elle le laisse tranquille. Et puis, quelques temps plus tard, elle revient face à lui et pose un seau vide. Et elle lui dit « Bon, Brian, rends-moi service, s'il te plaît. Va remplir ce seau dans le lac. » Et le garçon, qui était très serviable, il finit sa pinte, et il prend le seau, il sort. Mais là, à peine il a fermé la porte, il se rend compte que la lune l'éclaire comme un plein jour. Il avance jusqu'au bord du lac, il monte sur le ponton, se penche pour prendre de l'eau, et quand il remet le seau à côté de lui, il est obnubilé par le reflet de la lune. Elle est si pleine et joufflue. C'était incroyable. Elle semblait l'appeler, alors il tend la main et il se penche comme pour la toucher. C'est bête, hein, on réfléchit pas dans ces moments-là. Il se penche et il tombe la tête la première dans la barque qui était mal attachée, qui se détache d'elle-même et se met à voguer sur les flots. Et quand il reprend ses esprits, il se retrouve dans un endroit brumeux. La barque avance d'elle-même sur une plage qu'il ne reconnaît pas. Une plage de galets, avec des arbres qu'il n'a jamais vus. Et il sort de la barque, fait quelques pas, il se rend compte que son corps s'est affiné. Il a une taille de guêpe, des bras fins. Sa barbe a disparu et surtout sur la poitrine, voilà que deux beaux fruits sont apparus. Il est devenu elle. Il est devenu une femme. Et elle ne sait pas qui elle est, où elle est et qu'est-ce qu'elle fait là. Et c'est dans cet état de panique générale qu'un pêcheur, avec tout son attirail, la découvre. Voyant sa détresse, il lui tend une tasse de café qu'il sort de son thermos. Il lui met une couverture sur les épaules. Et puis, comme elle n'avait pas d'endroit où aller et qu'elle était frigorifiée, il l'emmène chez lui. Il avait une maison pas très loin de là. Il lui donne des habits propres, un bon repas. Elle reste là. Un jour, une semaine, un mois, un an. Même que ils ont eu un enfant tous les deux. Un garçon. Et cette nuit-là, leur bébé dormait. L'homme dormait. Elle, non. Impossible de trouver le sommeil. Elle tournait d'un côté et de l'autre du lit. Ça ne venait pas. Alors elle sort nerveusement des couvertures, s'avance dans la cuisine et par la fenêtre, elle regarde le ciel. Elle voit la lune pleine et ronde. Et sans réfléchir, elle ouvre la porte, sort dans la nuit, s'avance pieds nus sur la plage de galets, monte sur le ponton et se penche pour caresser le reflet de la lune sur l'eau. Mais elle se penche un peu trop, vous savez, on ne réfléchit pas dans ces moments-là. Elle se penche et la voilà qui tombe, la tête la première, dans une barque mal attachée qui se détache et se met à voguer sur les flots. Un peu plus tard, elle se réveille, l'esprit embrumé, et elle voit que la barque s'approche d'un ponton, d'une plage qu'elle reconnaît. Au loin, elle voit un pub éclairé. Elle sort de la barque, et là, elle se rend compte que son corps est devenu beaucoup plus massif. Ses bras sont musclés, une barbe est apparue. Elle est redevenue lui. Elle est redevenue Brian. Et Brian voit le seau encore plein d'eau. Il le saisit Et machinalement, il reprend le chemin du pub. Il prend une bonne inspiration, ouvre la porte. Et c'est comme si rien n'avait changé. C'est comme s'il était sorti là il y a 3 minutes. Il y avait les vieilles dames qui discutaient, les joueurs d'échecs tout aussi concentrés, les musiciens qui jouaient, les piliers de comptoir qui étaient là, la patronne qui souriait. Il s'approche d'elle et lui tend le seau d'eau. Elle le regarde en souriant et lui dit « Alors Brian, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas une histoire à raconter hein ?»
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Pour accompagner ce beau conte. Alors, c'était magnifique. Vous nous avez embarqué.
Merci, Jean.
Vous nous avez embarqué. Nous sommes dans l'Occitanitude de Clélia Taboileau. C'est une Occitanitude contée aujourd'hui, puisque elle est allée très loin. Très loin dans sa prestation. Alors, j'ai envie encore qu'on garde quelques minutes pour parler de deux choses. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Baïsan.
Oui.
Vous avez fait des prestations à Baïsan ?
Oui, j'en ai fait par le passé pour le festival Héros Héros Patapon. Ils m'ont invité 2 fois. Et là, cette année, je suis invitée à nouveau, c'est à l'initiative de la médiathèque départementale, pour créer un parcours mythologique dans le bois sacré de la scène de Baïsan.
Donc, encore un autre projet, et toujours la mythologie derrière.
C'est ça, oui, oui, oui.
Alors, vous avez un petit faible pour la mythologie.
Ouais, vous l'avez deviné. C'est ça, j'aime beaucoup la mythologie grecque, notamment. Et là, c'est aussi un projet in situ, voilà, de créer un parcours déambulatoire dans le cadre du Festival Patapon. Donc ça veut dire que ce sera la semaine prochaine, le rendez-vous est donné. Donc il y a deux séances scolaires, et puis pour le tout public, ce sera dimanche 19 mai à 11h, à la scène de Baïsan. Voilà, sur le parcours... mythologique, puisque pour ceux qui connaissent pas ce bois sacré, il est jalonné de marbre créé par des artistes européens, j'ai l'impression, autour de la mythologie. Donc on peut y croiser.
Autour du marbre de Saint-Pont.
Et voilà, de la pierre de Saint-Pont, ouais, c'est ça.
Voilà, ça c'est important. Alors justement, puisqu'on parle de cette pierre, puisqu'on parle que la culture met en valeur ben, des choses du pays, et paysan entre autres, ben, il faut quand même qu'on ne taise pas que ça va plutôt mal.
En ce moment, oui.
Ça va plutôt mal.
Oui.
Alors d'un côté, bon, on met en exergue des tas de choses sympathiques, et puis ça va mal. On nous prive de projecteurs, on nous prive de tous les petits machins qui font les spectacles. Et alors, oui. qu'est-ce qui se passe ?
Alors, il se passe que le département de l'Hérault, qui jusqu'à présent avait quand même une belle politique artistique et culturelle, avec des résidences d'artistes en collège, des résidences d'artistes au domaine d'eau, du prêt de matériel scénique pour les associations et les festivals qui jalonnent dans tout le département, des interventions artistiques dans les établissements scolaires, collèges, tout ça est supprimé du jour au lendemain. Sur une décision arbitraire du département et du président du département, pour ne pas le nommer.
On ne le nommera pas.
Non, non. Voilà, donc c'est regrettable, parce que c'est clairement annoncé la mort certaine de ce beau paysage culturel et artistique qui était le nôtre, en supprimant les festivals, les petits festivals qui ne peuvent pas se payer du matériel scénique, de cette prestation, de cette... de ce prêt de matériel qui était proposé par le département.
Bien, écoutez, peut-être qu'on va en rester là, mais je pense qu'il faut pointer ce genre de choses, parce qu'il y a des choses qui ont été importantes, et il y a des... J'ai envie de rendre à certains collègues la qualité de ce travail. Elle incombe surtout à François Deschamps, qui était directeur de la culture, et je crois que tout le monde s'en souvient, mais il faut absolument... appuyer là où ça fait mal de temps en temps, pour que demain devienne un jour meilleur, peut-être.
Ouais.
Peut-être.
Ah, certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare. E chissà se si accorgono di niente o si lasciano semplicemente arrivare. Assomigliano a certe tristezze che senza preavviso allagano i laghi del cuore. E alla solita acqua ci mischiano un'acqua che arriva da non si sa dove. E ti ho incontrata una sera sperduta che non c'era più niente da dire. L'ombra di un mezzo saluto in quegli occhi che pure mi avevano guardato guardare. Non importa quanto tempo è passato, ce ne siamo lasciate noi due di tracce sul cuore, che nessuna tristezza dovrebbe da sola, dovrebbe poter cancellare. E son ritornato qui, in verità, per contraddirti. E non mi allontanerà il tuo silenzio e la distanza di una giacca abbottonata. Sono tornato qui, perché si fa di rincontrarsi. E non mi scoraggerà nemmeno il vuoto che ci piglia e non ci fa più meraviglia. Sono tornato qui perché... perché certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare, io lo so, non si accorgono di niente, si lasciano semplicemente arrivare. Dai,
cette chanson, ça marque quoi? Ça marque votre adhésion à la culture italienne?
Oui, ça marque mon amour pour la langue italienne, déjà. Et oui, j'aime beaucoup ce chanteur. Bon, aujourd'hui, il est mort, Gian Maria Testa, mais c'est un peu le Georges Brassens italien.
Un peu Paolo Conte.
On peut le dire aussi, ouais. Il a eu plus de succès en France qu'en Italie. On n'est jamais... nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Hein. Mais oui, la langue italienne, pour moi, c'est peut-être la plus belle du monde. Donc voilà.
Comment vous traduisez Piccoli Fiumi?
Petit fleuve.
Bon, ça veut tout dire. Hein.
Mm-hmm.
Et ça nous entraîne dans votre chemin. Alors, votre chemin, aujourd'hui, il part dans la direction du cosmos.
Oui.
Alors, dites-nous tout, parce que nous avons deux minutes pour exprimer le cosmos.
Oula.
C'est pas mal.
C'est vaste sujet, là. En gros, pour faire court, c'est le futur cycle de travail sur lequel la compagnie L'Oiselaire va travailler, sur le cosmos. L'idée étant de mener une enquête pour savoir, de faire un spectacle sous la forme d'une enquête pour savoir, pour comprendre quelle est notre place à nous, hommes et femmes, sur ce petit caillou qu'est la Terre par rapport à l'immensité qu'est l'univers. Voilà. Donc, l'idée est de rencontrer, pour le travail de préparation, des astronomes, des astrophysiciens, des astrologues même, mais aussi des enfants, des adultes, faire un travail de collectage pour savoir un peu quelle est la relation de chacun avec l'univers. Certains vont avoir une relation très mystique, d'autres très cartésienne, d'autres très scientifique. Hubert Reeves, par exemple, nous a dit que nous sommes faits que de poussière d'étoiles. On apprend que le temps n'est qu'une illusion, par exemple, que en fait, on fait partie de ce grand cosmos et que le mouvement des planètes fait partie de notre mouvement intérieur aussi. Enfin, voilà, tout ce grand questionnement sur l'univers. C'est ce qui m'occupe actuellement et ça va donner lieu à un spectacle pour 2026, donc on a le temps, mais on va commencer à chercher des partenaires pour faire des résidences, pour rencontrer des publics, pour répéter.
C'est un beau projet.
J'espère.
C'est un beau projet qui ouvre la voie de la réflexion, qui ouvre la voie du progrès, et c'est bien ainsi. Alors, chers auditeurs de Radio Languedoc, on était avec Lélia Tawalo, c'était une conteuse, une infirmière, une contestataire, tout, on a tout eu et c'est formidable. Et merci beaucoup Lélia, c'était votre Occitanitude.
Merci Jean.
Outsita. Attitude. Outsitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac.